Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je suis ravi de vous accueillir à Marcher vers le bien-être. J'aimerais cette semaine aborder avec vous une face cachée de la marche. Nous allons ensemble explorer la perspective des personnes handicapées qui ne peuvent pas marcher, du rôle que nous pouvons tous jouer afin de leur permettre de briser l'isolement qui découle parfois de leur handicap, et de Kérul, l'organisme qui s'est donné comme mission de faire le pont entre les deux. Mon invité est Simon April, responsable de la formation et de la défense des droits chez Kérul. Simon est handicapé de naissance et mène une vie active comme peu d'entre nous peuvent le faire. Je me suis rendu chez lui à Charlebourg, en banlieue de Québec, pour m'entretenir avec lui et pour vivre quelques heures de son quotidien rempli de chaleur et de bonne humeur. En deuxième partie de l'épisode, la chronique « Le corps en marche » avec Michel Cousinat-Baudet qui nous parle des nombreux avantages de la marche dans le froid. Alors, bonne écoute et bonne randonnée! Alors, bonjour Simon et merci beaucoup de nous accueillir chez vous à Charlebourg pour cette conversation autour d'un organisme qui s'appelle Kérul et de toutes les activités dont nous allons parler au cours de cet épisode.
Ça fait plaisir de vous accueillir chez nous.
Alors, commençons par le commencement. Kérul, oui. C'est quoi Kérul? Ça fait quoi?
Kérul, c'est un organisme qui a été fondé en 1979 par M. André Leclerc. Kérul, c'est un organisme qui se veut comme mission de rendre le tourisme et la culture accessibles. Donc, ce qu'on veut faire, tu sais, Monsieur Leclerc, qui, suite à une mésaventure, a voulu, dans le fond, mettre un peu plus l'accent sur le côté plaisir, donc le tourisme, la culture.
Les loisirs, les sorties.
Exactement, profiter de la vie, plutôt que d'aller vers le côté médical. Il y a déjà beaucoup d'organismes qui s'occupent de ça. Donc nous, depuis 1987, on est l'interlocuteur du ministère du tourisme. Donc, c'est ce qu'on s'occupe là, avec le ministère, en faisant des formations, soit des accréditations, de lieux accessibles. Donc, on envoie des formateurs, on envoie des gens pour évaluer les endroits touristiques. Par la suite, là, on fait une espèce de wrap-up de tout ça. On fait des fiches, puis les gens peuvent aller consulter pour pouvoir savoir est-ce que l'endroit que je vais aller, l'hébergement, l'hôtel, l'activité que je vais faire, est-ce que c'est accessible, semi-accessible partiellement qu'on dit, ou pas accessible, parce que nous, on se trouve pas être la police de l'accessibilité, mais plutôt qu'on veut informer les gens sur qu'est-ce qui est possible de faire, puis où est-ce que se trouvent les problématiques.
Et aussi collaborer à ceux qui fournissent les services, justement, pour les rendre de plus en plus accessibles.
Exactement. Fait que dans le fond, nous, on est beaucoup service conseil. On y va avec les entreprises touristiques ou culturelles, donc une salle de spectacle ou un chalet ou ça peut être une activité de ski, parce qu'il y a des personnes handicapées qui font du ski.
Donc, on
va vers eux, puis on les conseille, on leur donne leur code d'activité, on peut former les gens, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que l'expérience est extraordinaire. Donc, faut former les gens pour que l'expérience vienne avec l'accessibilité. Donc, c'est un peu tout ça qu'on fait là, au fil du temps. On a une équipe qui fait toute la province. Donc, on a des projets un peu partout. On a aussi l'aéroport, comme vous saviez, Denis. Dans le fond, l'aéroport, c'est une grande partie du voyage. Ce qui est important là-dedans, là, c'est que tout soit accessible, que les gens aient le service qu'ils doivent avoir.
Puis, auquel ils ont droit.
Exactement, oui. Exactement. Donc, la question d'accessibilité est très importante là-dedans.
Et puis, Simon, il y a une question que je me pose et que d'autres personnes se posent probablement également. Comment on définit une personne handicapée, à mobilité réduite, en situation d'handicap? Quelle est la formule privilégiée?
Dans le fond, ça, c'est un débat de société qu'on va toujours avoir, puis toujours des personnes qui vont dire des choses différentes, mais au sens de la loi canadienne, dans le fond, les personnes handicapées, c'est des gens que ça prend 14 heures pour pallier leur handicap par semaine. Donc, quelqu'un qui est en fauteuil roulant comme moi, dans le fond, toute l'activité quotidienne que j'ai à faire, parce que moi, j'ai une maladie des os, j'ai les os fragiles qui s'appellent l'ostéogenèse imparfaite. Donc, dans le fond, pallier mon handicap, donc avec soit me laver, dans le fond, m'habiller, préparation de repas, etc. Donc, si ça me prend plus que 14 heures par semaine, je suis considéré par la loi pour, comme une personne handicapée. Donc, quelqu'un de diabétique de type 1 a un peu le même enjeu, dans le fond, c'est une personne handicapée au sens de la loi. Mais il y a plusieurs types de handicaps, les handicaps permanents comme le mien, il y a des handicaps temporaires, donc quelqu'un qui fait une chute, qui se fracture la jambe, a un handicap pour un certain laps de temps, donc se retrouve en situation de handicap sans être une personne handicapée au sens de la loi.
Oui.
C'est là la différence. Moi, je me plaisais à dire dans mes formations, mes conférences, que quelqu'un qui est en Norvège, qui veut faire son épicerie, mais qui parle pas un mot d'anglais et de norvégien, est théoriquement en situation de handicap. Mais c'est la même chose aussi pour les familles qui ont des jeunes enfants avec des poussettes, qui veulent rentrer dans le commerce, mais il y a trois marches, où il n'y a pas de bouton poussoir pour des portes automatisées, mais ils se retrouvent, dans le fond, en situation de handicap. Fait que c'est ça un peu la différence entre une personne handicapée puis quelqu'un qui est en situation de handicap. Par contre, les gens, il y a des gens qui acceptent pas le mot personne handicapée, donc préfèrent dire en situation de handicap. Pour le terme mobilité réduite, on essaie de réduire ce mot-là parce qu'il y a le mot réduit que les gens préfèrent moins. Puis je veux pas faire de jeu de mots, mais ça fait un peu réducteur. Donc
oui,
on essaie
oui.
de moins l'utiliser à ce niveau-là, mais je sais que dans l'administration et la paperasse, là, c'est beaucoup le mot utilisé.
Est-ce qu'on a une idée de la proportion des personnes au Québec qui sont justement handicapées?
Au Québec, si je me trompe pas, c'est 23%, mais au Canada, parce que c'est toujours autodéclaratoire, fait que ça veut pas dire que c'est le vrai chiffre, mais je sais qu'au Canada, c'est 27% qui est autodéclaré. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui se considèrent pas comme des personnes handicapées. Comme je disais tantôt, là, des personnes diabétiques de type 1, mais ben, peut-être qu'ils se considèrent pas comme une personne handicapée, donc disent non. Mais en fait, et au sens de la loi, ils le sont.
Donc, c'est une proportion quand même assez élevée. Hein?
Oui, très élevée. Puis même, on sait qu'avec les personnes âgées, c'est pas un handicap à être une personne âgée, mais c'est un facteur de risque d'avoir ou de développer une certaine forme d'handicap.
Oui, justement. Alors, Simon, parlez-nous de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à Kéroul?
Ben, dans le fond, moi, je suis un petit garçon du bas du fleuve. J'ai toujours voulu voler de mes propres ailes. Donc, je suis parti là, faire mon cégep à Rivière-du-Loup. Puis, par la suite, je trouvais que le défi était, curieusement, selon ma mère, pas assez haut. Donc, je suis venu à Québec. Puis, le défi était quand même raisonnable pour moi. Donc, c'était de trouver un appartement, puis un appartement déjà adapté, ça n'existe pas. Parce que la différence aussi entre accessibilité puis adaptation, l'accessibilité, c'est, mettons que je prends l'exemple d'un hôtel, il y a des portes automatisées, il y a un comptoir abaissé et tout. Ça, c'est de l'accessibilité.
Oui.
Mais l'adaptation, c'est personnel à chacun. Fait que moi, si je veux me louer un appartement, ben il faudrait que quelqu'un d'autre comme moi passe en arrière de moi, qui a eu l'appartement avant moi, ce qui est pratiquement impossible. Donc, c'est ça. On s'est mis on dit patenter au Québec. Donc, à patenter des choses pour rendre accessible. L'enjeu, c'est toujours dans les appartements ou les condos, la salle de bain et la cuisine. Ça, c'est le nerf de la guerre. Donc, j'ai appris un peu à développer des trucs. Par la suite, j'allais travailler j'ai travaillé pour le gouvernement provincial au directeur général des élections du Québec. Donc, j'ai appris aussi l'adaptation d'un lieu de travail, comment que ça se passe avec les collègues et tout. Par la suite, j'ai fini mes études en psychologie puis en services sociaux. Donc, je me suis dirigé vers un organisme communautaire à Québec, que j'ai travaillé avec eux pendant 7 ans. Mais par la banque, je suis devenu formateur chez Kéroul. Donc, dans mes temps libres que je n'avais pas vraiment, j'ai décidé de faire de la formation pour aider les gens, puis je pense de réveiller une conscience, puis c'était surtout dans les écoles. Moi, je trouvais ça intéressant pour les étudiants qui partent après sur le marché du travail avec une conscience sur l'accessibilité puis les personnes handicapées. Puis par la suite, c'est Mme Lynn Ménard qui est venue me chercher là, pour me demander d'être responsable chez Carole de la formation.
Ce qui me fascine chez vous, c'est que vous êtes tellement actif. J'ai eu de la difficulté à trouver un petit créneau pour vous interviewer, là.
Oui, bien, tu sais, avec la vie de famille puis le travail, c'est pas toujours évident.
Oui. Et c'est tout le contraire de la situation où se retrouvent plusieurs personnes handicapées. Le plus grand problème, le plus grand défi, ça serait peut-être l'isolement?
Oui, bien, l'isolement social pour les personnes handicapées, oui. Parce que des fois, on a un bon cercle d'amis, familial et tout, mais c'est pas nécessairement la chance de tout le monde. Puis, quand c'est une personne handicapée, comme aujourd'hui, on est à Québec, puis il y a beaucoup de neige. Donc, nous autres, les personnes, surtout les personnes en fauteuil, handicap moteur, je dirais que l'hiver, c'est une période d'hibernation pour nous. C'est plus difficile de sortir, tout est enneigé, la mobilité est difficile. Fait que nous, pendant la pandémie, on trouvait ça même très drôle, les gens qui étaient isolés chez eux puis qui ils se disaient pas pouvoir sortir. Nous, on parlait dans la communauté des personnes en fauteuil puis on disait, mais on comprend pas, c'est la même chose que d'habitude. L'hiver, on sort pas de toute façon. Fait que c'est un peu plus difficile, mais l'isolement, c'est quelque chose de pas facile pour certaines personnes. Beaucoup de personnes âgées là-dedans, puis la difficulté aussi, c'est que les services sociaux, le financement, tout l'argent qui vient surtout pour les activités de la vie quotidienne, donc pour aider pour la nourriture, pour les levers couchés, pour les soins de santé, mais pour le plaisir ou pour juste parler, sortir, il n'y a pas de financement pour ça. Fait que ça, c'est un peu plus difficile. Fait qu'une fois qu'ils ont tous les soins de base, ben s'ils n'ont pas de cercle social, ils ont les organismes communautaires qui peuvent aller voir. Les organismes communautaires, des fois, c'est pas toujours évident parce qu'ils sont beaucoup sollicités, donc ils n'ont pas beaucoup le temps non plus. Fait que c'est ça qui est un peu difficile dans toute cette situation-là. Mais il y a des gens quand même qui réussissent à trouver des solutions pour activer les gens à sortir.
Dites-moi, de votre expérience, quelles sont les conséquences, justement, de l'isolement?
Ben l'isolement, moi, je trouve que ça apporte à la démotivation. Parce que, dans le fond, puis des fois, tu sais, ça peut apporter même à une certaine forme de dépression. Parce que quand on est une personne handicapée, il y a deux façons. On devient une personne handicapée ou on est une personne handicapée. Donc, il y a une différence là-dedans. Il y a des gens que, comme moi, je suis une handicapée de naissance. Fait qu'au fil de ma vie, c'est ça que j'ai connu. J'ai toujours connu ça, puis ça va toujours être ça. Fait que j'ai appris à vivre avec il y a bien longtemps, puis j'ai trouvé mes propres solutions. Mais il y a des gens que suite à un accident ou suite au vieillissement, ils deviennent des personnes handicapées, puis bang, là, ils frappent un mur, puis ils savent pas trop quoi faire. Est-ce que ma vie est finie? Il y a eu un gros débat là-dessus sur l'aide médicale à mourir aussi.
Ah oui, oui.
Donc, ça, c'est quelque chose. Mais, tu sais, moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui sont devenues paraplégiques ou quadraplégiques. C'est sûr que sur le coup, c'est difficile, mais après ça, tu sais, il y a plein d'options, plein de choses qui s'offrent à eux. Puis, c'est, dans le fond, il faut voir ça comme une nouvelle vie qui s'ouvre à nous.
Il faut apprivoiser.
Exactement.
Un nouveau mode de vie.
Hein? Ben moi, j'avais appris en psychologie qui disait que. Je vais peut-être me faire lancer des roches en disant ça, mais l'intelligence, c'est l'art de s'adapter aux situations qui t'arrivent dans la vie.
Oui.
Mm-hmm. Donc, c'est une façon de voir les choses. Puis ensuite, ben si les gens ils voient un autre côté, un autre revers de la médaille, ben c'est là qu'ils s'investissent soit dans le communautaire, soit dans le sport, soit dans des activités physiques ou dans l'entraide de d'autres personnes.
C'est ce qui nous amène un peu à parler de la thématique d'aujourd'hui, parce que c'est quand même une émission sur la marche.
Exactement.
Et ce qu'on vit, c'est la participation de gens bien portants à ce niveau-là, et on vise aussi l'intégration à la vie sociale de personnes qui sont handicapées.
Oui.
Et il y a plusieurs façons de le faire. On y reviendra de la part de l'individu un petit peu plus tard. Mm-hmm. Mais vous m'avez parlé d'un projet, un programme, un produit même qui s'appelle Cartus.
Ouais.
Et j'aimerais qu'on en parle parce que c'est une initiative que je trouve très, très intéressante et qui permet justement de faire le pont entre les personnes handicapées et la famille, les amis et tout le côté social.
Oui.
Alors, parlez-nous un peu de Cartus que vous connaissez bien.
Oui, puis je vais même vous parler d'une petite surprise par la suite.
Oh!
Oui. dans le fond, Cartus, c'est que moi, je travaillais dans un organisme communautaire. Puis c'est une personne. J'avais vu ça passer dans le journal. Puis c'était un chirurgien de Sherbrooke, que lui, dans le fond, il trouvait qu'il n'y avait pas assez de temps avec ses patients, puis il aurait voulu échanger, puis connaître un peu leur situation de vie. Puis... Donc, il avait décidé de créer un bolide qui s'appelle le Cartus, puis que d'inviter ses patients ou des clientèles de plus personnes âgées, dans le fond, de s'asseoir là-dedans, puis de faire des randonnées avec lui. Fait que lui, il faisait de la course à pied le matin. Donc, il dit, ben pourquoi pas emmener une personne avec moi, puis le faire. Fait que ça a très bien marché. Il y avait eu trop de demandes. Donc, il a invité ses amis médecins à faire la même chose.
Et on précise tout de suite que c'est un fauteuil roulant tout terrain.
Ouais, mais c'est des gros. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça ressemble à des roues de vélo.
Oui,
c'est deux roues de vélo en arrière, puis une grosse roue de vélo en avant. Donc, puis avec un fauteuil assez confortable parce que des fois, ça arrivait que des gens ont fait des marathons et tout. Donc, tu sais, on est là pour une couple d'heures. Donc, il faut que ça soit quand même confortable puis que ça amène à pouvoir avoir une discussion.
C'est ça.
Fait que l'objectif, c'était ça. Mais le médecin en question, ben ça reste un médecin puis il n'y avait pas beaucoup de temps. Mais il y a une personne que je connais qui s'appelle Philippe Olligny. Mm-hmm. Que lui, le produit l'a intéressé, donc il est allé voir l'équipe, puis il s'est approprié le Cartus, dans le fond, les droits.
Le concept.
Le concept. Il a pris les droits dessous, puis moi, j'ai connu ça parce que lui, tout d'un coup, un an plus tard que j'ai lu l'article, ce même Philippe-là est venu me voir pour que j'essaye ce bolide, pour me dire qu'est-ce qui est bien, puis qu'est-ce que je pourrais améliorer dessus. Lui, c'est un peu une espèce d'ingénieur. Il est philanthrope, là, Philippe. Il est super gentil. Puis, il me faisait essayer, tester. OK, ça, c'est difficile pour les transferts. Ah, j'avais pas pensé aux transferts. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'il n'avait pas pensé. Mais il n'y a rien de mieux que consulter des personnes qui veulent l'utiliser pour le savoir.
Alors là, je vous vois confortablement assis.
Exactement.
Dans ce Cartus qui, avec l'accompagnateur qui vous pousse un peu partout, gentiment ou non.
Oui, et puis...
Rapidement ou non.
Rapidement ou non. Mais, tu sais, pour avoir... je continue mon histoire, puis il y a quelqu'un qui me dit qu'est-ce que ça lui apportait après, puis je vais vous le dire, là. Dans le fond, moi, j'avais commencé à faire les tests avec lui. Puis là, les gens m'ont vu faire les tests, puis ils ont décidé, hey, moi aussi, j'aimerais ça l'essayer. Puisque il y a la semaine québécoise des personnes handicapées qui est du 1er au 7 juin à chaque année. Puis pour faire aussi le tout, j'ai une connaissance qui s'appelle, c'est un monsieur qui s'appelle Bruno Savard, qui fait Radio-Canada, le téléjournal à 6h à Québec. Donc je l'ai contacté, puis j'ai dit, hey, ça tenterait-tu de faire un reportage avec moi pour te montrer? Puis je savais qu'il faisait des courses aussi, des marathons. Donc je dis, ben certainement. Fait qu'on a fait un reportage. Il a adoré le concept. On a même fait le marathon SSQ ensemble par la suite. Puis, à chaque année, depuis bien des années, maintenant, c'est Beneva qui soutient ça, mais à chaque année, il y a des Cartus qui sont dans le marathon.
Oui.
Ouais, même à Montréal, cette année, il y en avait. Il y a des gens qui sont allés faire le marathon de Boston. Donc, c'est vraiment là un concept qu'il essaye d'élargir un peu partout. Puis, Philippe, dans le fond, il l'a délaissé à des organismes communautaires, mais ça s'appelle les courses partagées. Puis, dans le fond, je sais que c'est implanté à Québec parce que j'étais là au départ, mais c'est maintenant à Montréal, je pense à Gatineau, encore à Sherbrooke, puis il essaie de développer un peu partout au Québec. Mais dans le fond, c'est des gens qui s'inscrivent, puis maintenant, je dirais du mois de juin à la mi-septembre. Comme à Québec, c'est autour de la rivière Saint-Charles, tous les mercredis de 6h à 8h, les gens s'inscrivent puis ils vont faire la petite course, la petite marche. Mais dans le fond, ce que ça a créé aussi, c'est que il y a des gens qui viennent à le bolide puis des gens qui poussent. Puis ça a créé une fraternité là-dedans. Fait que les gens avaient hâte à la semaine prochaine d'avoir le même co-coureur, comme on appelle, puis d'échanger sur la suite des choses de la vie en général. Donc, ça a créé un sentiment d'appartenance, de fierté aussi.
Comment vous vous sentez? Vous êtes assis dans votre
super
bolide.
C'est ça, merci de me ramener là-dessus. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, nous autres, on n'a pas la sensation de quelqu'un qui court, le vent qui nous frappe dans la figure, tout ça. Puis c'est la première réaction que j'ai eue, c'est une madame qui s'appelait Danielle Harvey, que je salue. Danielle disait, « Ah, j'ai tellement l'impression de courir en même temps que toi, en sentant juste le vent. » On avait fait ça, la première essai, sur le bord du fleuve, à la promenade Champlain.
Ooh.
Donc, il y avait quand même un bon vent cette journée-là.
Oui.
Puis, les gens aimaient ça. Puis, il s'est installé une petite compétition entre les quartiers sur celui qui allait le plus vite. T'es juste rendu là. Puis, bon, fait que c'était quand même plaisant aussi. Mais au fil du temps, dans le fond, avant, ils cherchaient des gens pour être dans le quartier puis des coureurs. Maintenant, je sais pas s'ils refusent ou... Mais
c'est très populaire.
C'est très populaire, ouais.
Oui, oui.
Si je peux me permettre ma petite surprise...
Oui, oui, tout à fait.
C'était... c'est qu'il y a un autre organisme aussi qui s'appelle Bivouac.
Bivouac, oui.
Bivouac, c'est un organisme, mais c'est de la marche, mais en plein air. Donc, je veux pas dire de l'escalade, là, mais tu sais, des randonnées pédestres un peu plus comme montant au dessus de montagne, Mont-Saint-Hilaire, par exemple.
Oui.
Donc, ils le font. C'est une joëlette. Les gens s'assient là-dedans. Il y a des bénévoles, puis ils sont quand même 4-5. Moi, je l'ai essayé l'été passé au chalet de l'Aubinière. Puis, dans le fond, ça a juste une roue. Fait que c'est un peu épeurant au début. Puis, c'est fait pour faire un peu plus de tout-terrain. Mais c'est une expérience que en fauteuil, on ne le ferait jamais.
Donc. C'est ça, oui.
Fait que
oui.
C'est des gens, il y a deux, trois personnes en avant. Moi, je trouve ça ressemble à un petit pousse-pousse qu'on voit en Thaïlande ou des choses comme ça.
Ah oui, mais vous vous sentez bien quand même en sécurité? Ou...
Ah oui, bien
un
oui.
Un petit peu nerveux au début, mais
ben,
on s'habitue.
Parce que tu ne connais pas, tu as peur de tomber et tout, mais il y a une personne en avant, une personne en arrière, puis il y a deux personnes de chaque côté. Donc, moi, j'avais vu beaucoup de vidéos là-dessus. Donc, on me l'a fait essayer. Mais par contre, il y a des gens qui, je pense, qui ont monté Kilimanjaro, sont allés... beaucoup à l'international. Fait que ça, c'est un autre type là, que Gartus. Mais c'est des gens qui sont téméraires. Ils pourraient pas le faire en temps régulier. Mais avec une équipe de bénévoles... Ben, je pense que rendu là, rien n'était possible.
J'ai vu des photos où il y avait des sentiers quand même assez accidentés, où les gens se promenaient avec le Gartus même.
Oui. Ben, avec le Gartus, oui. Mais tu sais, le Gartus, il faut que tu restes quand même sur le plat. Ben, pas sur le plat, mais je veux dire, tu sais, sur une surface, là, comme en terre tapée ou en asphalte ou comme ça.
Oui.
Dans la pelouse, dans le gazon, c'est moins évident. Tandis que la joëlette, là, ça, c'est plus pour les, on va dire, off-road.
Mm-hmm.
C'est pour ça que... Moi, ça m'intéresse beaucoup encore. Mais quand je l'ai essayé, j'ai dit, moi, j'aimerais ça monter. Ça a toujours été mon rêve, là, de monter le Machu Picchu. Mais je l'ai fait pendant 20 minutes. Puis j'ai dit, je sais pas si j'arrête les... Parce que ça a l'air de rien, on force pas tant que ça. Mais c'est quand même toujours une pression sur les genoux. Fait que Machu Picchu, c'est ça. C'est plus compliqué.
Oui. Mais je reviens aux retombées humaines et sociales.
Oui.
C'est un peu ce qui nous attire.
Oui.
Parce qu'on va prendre une courte pause musicale et j'aimerais qu'on aborde le rôle de l'accompagnateur. La personne qui est bien portante, qui peut justement créer ce lien avec la personne handicapée.
Oui.
Alors, nous sommes en compagnie de Simon April, de l'organisme qui roule. Simon, nous parlions de l'intégration à la vie sociale, si on veut, de personnes handicapées. Nous venons parler de Gartus, qui est une innovation que je trouve extraordinaire dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'une personne comme moi ou comme d'autres, bien portante, qui peut marcher, évidemment, comment je peux contribuer à l'insertion ou la vie sociale de personnes handicapées? C'est un peu ce que j'aimerais qu'on explore au cours des prochaines minutes.
Ben, moi, je dirais, dès le départ, regardez autour de vous. Parce que des fois, vous avez des gens qui sont peut-être isolés, puis vous le savez même pas. Donc, des fois, ils ont des difficultés de motricité, ils le cachent. Des fois, c'est plus difficile pour eux. Donc, de voir autour de soi-même, S'il y a des gens qui auraient besoin juste une petite sortie là, au centre d'achat, des fois, ça peut faire toute la différence. Mm-hmm. On voit ça même dans les centres d'achat, les clubs de marche des personnes âgées. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc ça, c'est une belle façon de briser l'isolement, de se réunir ensemble, de pouvoir faire de l'activité physique, puis en même temps, pouvoir échanger sur le quotidien, les enjeux, tout ce qu'on rencontre dans la vie. Fait que ça, c'est une première chose à faire. La deuxième chose, c'est il y a beaucoup d'organismes communautaires que souvent ils cherchent des bénévoles. Puis les organismes communautaires sont très sollicités, puis on n'a pas toujours le temps de. Ben, c'est pas, je veux pas dire de bien s'occuper de nos membres, nos bénévoles, mais des fois entre bénévoles. Ce que je veux dire, c'est que on peut être bénévole d'un organisme communautaire, mais sans avoir pour personnes handicapées, je veux dire, mais sans avoir d'handicap, seulement pour pouvoir aider. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même bien. Puis des fois, on peut faire des matchs entre ça. Je donne un exemple. Dans le fond, où que je travaillais avant, il y avait dans l'organisme, il y avait beaucoup de soutien à domicile. Puis le soutien à domicile, ben c'est fait pour les besoins de la vie quotidienne. Mais il y avait des gens là-dedans qui voulaient faire plus. Fait que oui, il aimait ça, aider les gens à se lever le matin, mais il aimait ça, peut-être aller prendre une marche, puis le financement le permettait pas, mais il développait des liens d'amitié, puis tu sais, c'est un peu malaisant dans le sens que, ben, tu serais son employé de la personne, et donc, entre préposés, ils pouvaient s'échanger, ben, j'ai une telle personne, puis elle aimerait ça, je sais pas, aller prendre une marche à tous les jours, puis, ben, des fois, des personnes qui ont pas d'handicap, ils peuvent être aussi isolés. Donc, c'est des choses que ils peuvent faire ensemble, les aider à pouvoir faire une activité qu'ils n'oseraient pas faire tout seul. Donc, aller au cinéma, mais aller au cinéma peut-être en marchant ou à pied, ou prendre le transport en commun. Moi, je prends le transport adapté beaucoup, mais quand je suis accompagné, mais ça me dérange pas d'aller prendre l'autobus de ville qui est accessible. Fait que moi, je pars avec quelqu'un, la personne peut m'aider à me pousser. Donc, tu sais, c'est une belle marche de partir de chez nous, d'aller au centre-ville de Québec, puis d'avoir quelqu'un qui m'accompagne. Fait que c'est un peu ça, le principe. Puis, dans les organismes communautaires, ben justement, comme tantôt, je parlais, les courses partagées, qui est une belle initiative, qui est partie de Cartus, que maintenant, c'est une entité communautaire qui n'a pas de financement en tant que tel. Dans le fond, l'objectif là-dedans, c'est juste la rencontre entre personnes, puis que les gens peuvent échanger, ils ont des points en commun, puis au fil du temps, ça se développe. Puis dans le fond, souvent, c'est des personnes qui n'ont pas eu de lien ou de communication, ou ils n'ont jamais eu à parler avec une personne handicapée, puis des fois, ils sont peut-être gênés ou ils n'osent pas, ils ont peur de blesser.
Ben c'est ça, justement, on ne sait pas tout à fait quoi faire. Exactement. On ne peut pas blesser la personne, comme vous dites.
Mais tu sais, à force de vouloir faire ça, ben, on ne communique pas. Fait que comme ça, on brise à rien pendant tout. Mais le but, c'est de faire une activité physique puis de oser quelque chose. Donc, quand on ose avec le Cartus, ben on échange. Puis la personne va vous le dire. Mais moi, j'aime pas ça me faire appeler comme ça. Puis tu sais, il y a pas de souci avec ça. Le but, c'est d'échanger. Fait que juste avec cette forme de communication-là, les gens brisent l'isolement. Ils ont hâte à la semaine prochaine. Mais tu sais, ils peuvent dire, ben moi, je vais me procurer un Cartus. Puis je vais partir avec, je sais pas, mes parents, des amis. Puis on va aller faire telle randonnée à tel endroit. Ou même ces bolides-là se louent. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de choses qui existent aussi d'aide technique. Comme il y a des fauteuils ici qui se font à Québec, ça s'appelle Trax. Donc avec un Z, c'est Trax avec un Z. Mais dans le fond, c'est des fauteuils roulants qui sont pas nécessairement subventionnés par la RAMQ pour l'instant. Mais c'est plus des fauteuils, je vais dire off-road, donc ils sont faits pour les sentiers un petit peu plus accidentés. Puis souvent, c'est des gens, moi je me plais à dire les Chantal Petitclerc de ce monde, donc les gens, on dit nous dans la communauté, on dit des handis sportifs, donc handicap et sportifs, qui veulent essayer de faire de l'activité physique. Puis là, ben, des fois, des personnes pas avec d'handicap voient ces gens-là handicapés faire deux fois plus d'exercice physique qu'une personne qui n'a pas d'handicap.
C'est excellent,
oui. Coudonc, je pourrais faire ça moi aussi. Donc, c'est un peu ça. Tout à l'heure, on parlait à un de nos collègues qui s'appelle Éric Gilbert, que lui, il y en a beaucoup des gens comme ça qui veulent briser les frontières. Fait que lui, il a décidé de faire du ski adapté. Puis, dans le fond, aussi, l'effet de mentorat qui m'expliquait. Des gens qui sont dans la situation de handicap, mais qui n'osent pas essayer des nouvelles choses, des nouvelles techniques, parce que « Ah, je l'ai jamais fait, je ne le sais pas. »
Est-ce qu'il faut peut-être provoquer un peu?
Moi, je pense que oui. Oui. Parce que dans le fond, les personnes handicapées, là, je parlais pour moi-même, parce que je ne vais pas parler pour tout le monde, mais souvent, d'aller d'un endroit qu'on ne sait pas, c'est accessible, qu'est-ce que ça va donner? Il y a une forme d'anxiété qui se développe. Puis l'objectif, c'est souvent quand on est accompagné de quelqu'un, bien, cette anxiété-là, il se brise, puis on ose plus, ce que je disais tout à l'heure. Donc, en osant plus, bien, l'anxiété diminue, puis on dit, bon, je t'accompagne. S'il arrive quelque chose, au moins, je vais pouvoir avoir de l'aide. Mais si on le fait par nous-mêmes ou toute seule, oh, là, je suis un peu moins téméraire, puis j'ose pas. Puis c'est la même chose pour aller en voyage. Mm-hmm. Je veux dire, même moi, présentement, encore aujourd'hui, oui, voyager au Québec, mais voyager à l'extérieur du Québec toute seule, je ne l'ai jamais fait.
Et ça viendra. J'aime beaucoup la façon dont vous racontez le lien entre l'accompagnateur et la personne handicapée. Et pour la personne bien portante, ben, c'est aussi une façon de se sensibiliser aux besoins, oui, à la vie, au quotidien, oui, de la personne handicapée.
Oui, exactement. Parce que chez Kirol, c'est ça, on n'avait pas beaucoup de... Ben, il y avait M. Leclerc puis Isabelle, mais comme employé, il n'y avait pas beaucoup de personnes handicapées à l'emploi. Puis moi, je suis arrivé, mais je suis de Québec en plus. Fait que je devais monter à Montréal de temps en temps. Je vous raconte ça parce que, dans le fond, on avait engagé deux personnes à Québec pour Kirol qui sont pas en situation de handicap, qui n'ont pas d'handicap, puis ils doivent évaluer les endroits que je parlais tout à l'heure. Mais ils ont dû monter avec moi en auto. Chose qu'ils n'avaient pas prévu dans leur plan de carrière, probablement, de monter avec une personne en fauteuil en auto. Puis eux autres se sont dit, ben comment qu'on fait ça? T'sais? Donc, ce qui est arrivé, c'est que je leur ai montré à ranger mon fauteuil d'un auto, les techniques que je fais pour me transférer dans un auto. Donc, puis d'avoir le souci un peu des fois après de, quand on est à Montréal, de m'aider à me déplacer sur les trottoirs ou en hiver, c'est quoi les enjeux. Donc, eux autres, je pense pas que c'est dans leur plan de carrière, c'était Maud et William, je les salue. Dans le fond, il y avait pas de plan de carrière de comment s'occuper, mettons, je vais dire comme ça, là, je fais des guillemets, s'occuper d'une personne handicapée. Mais par la suite, là ça fait presque un an et demi, deux ans, ben je vois les réflexes sont déjà là. Puis je le vois qui m'ont aidé comparativement peut-être à d'autres chez Kirol qui n'ont pas eu peut-être cette chance-là, je fais encore des guillemets, d'aider une personne handicapée, mais hors du cadre du travail, même si c'est dans le travail. Donc, je me rappelle que ma collègue Maud, la dernière fois, on est allé à l'hôtel, puis elle est venue voir dans la chambre pour être sûre que tout était correct pour moi. Puis, donc, elle avait déjà le souci à ce niveau-là que peut-être qu'elle n'avait pas comme réflexe par la suite. Donc, c'est en fréquentant et en aidant les personnes comme ça ou en échangeant avec eux qu'on comprend un peu peut-être la différence entre le quotidien en temps normal et le quotidien d'une personne handicapée. Fait que quand on fait de la course comme Cartus ou qu'on va dans une geôlette avec bivouac, ben c'est là qu'on se rend compte c'est quoi les différences, mais c'est quoi aussi l'entraide, puis c'est quoi, comment qu'on peut aider quelqu'un, mais sans être trop malaisant, puis sans être trop familier. C'est un peu complexe comme situation, mais des fois on devient trop familier, puis des fois, ben dans le fond, il faut juste couper ça, puis aller voir la personne, puis t'sais, sans lui proposer votre aide, sans lui l'aider d'emblée, sans lui demander. Là. Nous autres, on dit souvent, j'avais un de mes collègues qui n'est pas en fauteuil, qui était une personne aveugle, puis lui était à un arrêt d'autobus, puis il y a quelqu'un qui a voulu l'aider. Fait qu'il est allé le voir, elle l'a pris par le coude, puis elle lui a fait traverser la rue. Mais lui, il voulait pas traverser la rue. Fait qu'il s'est ramassé dans l'autre abri de bus, pris de mauvais autobus, et s'est ramassé à Val-Bélair à la place de Lévis. donc, oui. c'était pas... donc, quand la personne aurait pu juste lui demander, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que je peux vous aider? C'est tout simplement ça. Fait que, tu sais, des fois, on veut bien faire, mais on sait pas trop comment s'y prendre, on est maladroit. Fait qu'il faut juste oser parler à la personne. Puis quand on a quelqu'un autour dans notre entourage, c'est pour ça qu'on dit la diversité, c'est important maintenant, d'avoir quelqu'un de différent dans notre entourage. Des fois, ça peut nous apporter un autre regard puis une autre sensibilité.
Une belle richesse de
exactement,
la vie.
Exactement, ouais. Exactement. Donc, moi, j'ai mon petit garçon, il a 8 ans, puis il a grandi avec un papa en fauteuil. Ben lui, il connaît pas d'autre chose. Fait que lui, quand il voit quelque chose qui n'est pas accessible, ou t'sais, j'échappe quelque chose à terre, ben, il est le premier... Là, arrête d'échapper des choses à terre. Je vais t'aider, là, mais là, là... donc, il y a cette sensibilité-là là, innée oui. chez lui. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Puis, je pense que ça se développe, mais ça se développe en fréquentant les gens puis en osant. Là.
C'est une belle consigne de demander. Ben, en fait, d'oser demander, oui, d'oser exactement. Parler, ne pas être gêné, justement.
Puis aussi, si vous ouvrez la porte à quelqu'un, je tiens à le dire, puis la personne, elle veut pas se faire ouvrir la porte, elle va être correcte toute seule, mais ça veut pas dire que la prochaine personne que vous allez rencontrer, elle, elle sera pas, elle va être contente d'avoir votre aide.
Est-ce que il y a des endroits ou des personnes ou des lieux, des organismes qui offrent une espèce de, je dirais, une formation ou une sensibilisation aux besoins des personnes handicapées?
Ben, c'est sûr que nous, chez Kirol, c'est ce qu'on fait. Donc, oui. Moi, c'est ce que je m'occupe. Oui. Beaucoup au niveau là, des étudiants. On le fait dans les écoles. On le fait beaucoup dans les... des entreprises privées.
Ah, c'est quand même répandu, oui, oui, oui.
Oh, oui, dans les entreprises privées, on le fait, ben, comme vous savez, on le fait dans les aéroports,
oui, c'est
dans
ça,
tout ce
oui.
qui est touristique, mais dans les salles de spectacle aussi. Mais souvent, comme à Québec, il y avait le théâtre Le Diamant.
C'était, oui, oui.
Puis il y avait
oui.
une madame mm-hmm. qu'on fréquentait dans d'autres domaines de la ville de Québec et tout. Puis elle voyait notre sensibilité, mais notre sensibilisation, mais aussi elle voyait nos expériences de vie. Puis, tu sais, veux pas, selon nos expériences de vie, on devient par défaut des experts de l'accessibilité. À notre façon, parce que chacun est expert de sa situation. De devenir expert de la situation de tout le monde, ça, c'est un autre dossier. Mais dans le fond, en faisant ça, ben elle s'est aperçue que Caroline, quand je fais des choses. Ben, je devrais toujours aller consulter pour voir c'est-tu correct ce que je fais, je m'aligne-tu comme il faut. Parce qu'il n'y a rien de mieux. Oui, il y a des normes qui existent et tout, mais il n'y a rien de mieux qu'aller voir les gens pour leur demander c'est quoi ton appréciation de ça, puis est-ce que tu reviendrais. Mm-hmm. Donc, il y a ce type de formation-là. Mais la sensibilisation, moi, je vous dirais, oui, on en fait, Kirol en fait, il y a beaucoup d'organismes d'autres qui en font. Mais la meilleure sensibilisation, c'est impliquez-vous. Impliquez-vous au milieu dans les milieux communautaires, allez voir les personnes. Moi, je pense que c'est ce qui va être le plus gagnant. Vous pouvez faire, tu sais, il y a des choses comme les grands frères, mais est-ce qu'il y a des grands frères avec personnes en situation de handicap ou personnes handicapées? Ou est-ce que, tu sais, dans les organismes, des fois, il y a des gens qui, comme je disais tout à l'heure, ils veulent juste briser l'isolement. Donc, est-ce que je pourrais me consacrer 2-3 heures par semaine pour aller dans les milieux communautaires où il y a des fois des blocs de logements sociaux qui ont des comités d'usagers ou des comités de... un peu comme dans les condos. Puis, eux autres qui organisent des activités, des jeux, ce qu'ils sont capables de faire. Fait que vous pouvez aller vous intégrer là, voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux. Puis, des fois, ça peut être surprenant. On avait une étudiante qui était venue nous voir en manée, puis elle était en diététique. Puis elle voulait créer des cuisines pour aider les personnes handicapées à faire la cuisine. Fait que c'était une super de bonne idée. Je pense que l'initiative était très bonne, mais il lui manquait le côté d'aller consulter ou de parler des personnes handicapées. Puis quand elle l'a fait, ben alors elle s'est rendue compte que c'était plus complexe que ce qu'elle pensait.
Oui,
donc ça
oui.
prenait des équipements, ça prenait une cuisine adaptée. Donc, puis aussi, je veux dire, chacun ne cuisine pas. C'est pas tout le monde qui mange tout, là.
C'est ça, oui.
Donc, il
oui.
y a des gens que, ben, y avait, les menus étaient différents, hein, tout ça. Donc, moi, ce que je disais, ben, tu devrais faire des ateliers de cuisine, puis tu devrais, tu sais, des petits ronds de poêle, mettons, portatif.
Mm-hmm.
Ben, là, tu peux la mettre à la hauteur de la personne, puis faire des choses de base, pas trop compliquées pour commencer. Puis que les gens, ben, ils vont prendre des initiatives. Puis il y a des gens qui ont des problèmes de motricité, il y a des gens qui ont des gens qui sont des personnes aveugles ou malvoyantes. Donc, c'est, la réalité est différente. Donc, la difficulté aussi de cuisiner était différente. Fait que c'est tout ça, il fallait qu'elle se sensibilise avant de partir à l'aventure avec sa très bonne idée de faire la cuisine pour les personnes handicapées. Mais ça prend un temps de recherche un petit peu pour développer ces côtés-là. Donc, il existe déjà une multitude. Allez voir sur Facebook, il y a plein de communautés de personnes handicapées qui ne demandent qu'à être écoutées et qui demandent qu'à échanger avec vous. Alors, gênez-vous pas, puis ils vont être super satisfaits.
Alors, le message, si on peut dire ainsi, c'est que c'est une expérience très enrichissante et pour la personne handicapée. Ouais. Et pour la personne qui accompagne.
Exactement, c'est du gagnant-gagnant,
oui.
Comme on appelle.
Oui. Alors, on termine l'épisode avec notre sujet préféré, puisqu'on s'est rencontrés à un symposium de l'OACI, l'aviation, les déplacements en avion à l'international.
Ouais.
C'est un sujet vaste, intéressant, mais qui interpelle aussi, encore une fois, les accompagnateurs d'aller en voyage avec les personnes handicapées.
Oui, mais souvent, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est l'accompagnement qui est difficile. Les compagnies aériennes sont un petit peu frileux. Là. Je sais que Air Canada le fait un accompagnateur là, à l'intérieur du pays, mais ça serait d'avoir un système là, d'avoir d'accompagnement, dans le fond, que les compagnies aériennes aient un, je ne veux pas dire un deux pour un, là, mais tu sais qu'un accompagnateur gratuit peut être, des fois, ça serait même facilitateur pour eux parce qu'il y aurait une personne qui s'occuperait de leurs clients, dans le fond, qui connaîtrait les besoins. Fait que ça serait du gagnant aussi pour eux. Il faut juste qu'ils comprennent, mais ça, c'est un autre débat. Oui, dans l'industrie, là, c'est parce que c'est à l'international. Hein, puis les règles de chaque pays sont différentes. Puis juste d'embarquer dans l'avion, je l'expliquais là-bas on était en conférence, ben souvent c'est on peut pas embarquer dans l'avion avec notre fauteuil, un peu comme tu sais les transports adaptés, les minivans, les autobus, ça on peut tout faire ça, les trains on peut, mais dans l'avion on peut pas. Donc faut mettre notre fauteuil dans la soute à bagages. Puis souvent ce qui arrive c'est qu'il y a des bris. Puis si on brise mon fauteuil rendu à destination, ben c'est comme si on brisait les jambes, je peux plus rien faire. Fait que c'est un peu ça le concept. Puis une personne qui est en fauteuil motorisé, ben c'est encore plus difficile parce que des fois les gens ont moins de tonus, les transferts sont plus difficiles. Donc c'est tout l'enjeu. La solution ultime, c'est sûr que c'est le fauteuil. Si la personne dans le fauteuil avec le fauteuil peut rentrer dans l'avion, ça serait primordial. Par contre, c'est des règles internationales, hein, fait que faut que si je veux aller à Istanbul, ben il faut que mon transfert à Paris, exemple, les deux avions soient accessibles.
Alors Simon, merci beaucoup d'avoir été à l'épisode aujourd'hui, à l'émission Marcher vers le bien-être. Et pour se renseigner, il y a le site web, il y a une foule de sujets qu'on peut découvrir sur votre site.
Oui, si on va sur le site de kiroul.qc.ca, ben dans le fond, si vous voulez planifier vos vacances pour l'été prochain ou peu importe la saison, ben vous pouvez aller voir sur notre banque de données. Dans le fond, là-dedans, vous pouvez voir là, tous les endroits qui sont accessibles, partiellement accessibles ou non accessibles. Ça va vous donner un bon indice. Puis on a des fiches techniques là, qui expliquent tout là, si vous allez d'un hôtel à hauteur des lits, les salles de bain et tout. Donc, vous allez tout savoir là-dessus.
Excellent. Alors, encore une fois, Simon, merci beaucoup.
Plaisir.
C'est maintenant l'heure de la chronique Le corps en marche, présentée par Michel Cousinat-Baudet, ostéopathe et experte en posture. Bonjour Michel et merci de vous joindre à nous, comme à toutes les deux semaines, pour marcher vers le bien-être.
Bonjour Denis, merci de m'accueillir à nouveau dans votre émission.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un sujet qui, à première vue, pourrait nous laisser froid un peu, mais pour lequel vous aurez vite fait, j'en suis certain, de nous y rallier. Il s'agit justement des bienfaits du froid et de la marche hivernale.
En effet, Denis. Je vous invite à faire avec moi un fascinant voyage à travers l'histoire et la science de la marche par temps froid et même glacial. Je vous présente d'abord quelques célébrités qui apprécient beaucoup les promenades hivernales.
Oh, on vous écoute.
Mon palmarès débute avec Elizabeth Carter. Cette écrivaine et marcheuse du 18e siècle adorait les promenades dans ce qu'elle décrivait comme des vents sifflants et des tempêtes de neige. Et elle n'était pas seule. Au fil des ans, des centaines de marcheurs et marcheuses ont exprimé leur amour durable pour les balades glaciales. Christiane Rittler, par exemple, a vécu au pôle Nord et marchait chaque jour à des températures de moins 35. Elle disait marcher, et je la cite, « en cercle, 10 fois, 20 fois, sur des congères irrégulières, gelées, aussi dures que de l'acier. »
Ouais, c'est un peu extrême.
Effectivement.
Vous avez d'autres exemples?
Oui. En 1924, l'exploratrice Alexandra David-Neel a marché de l'Europe à Lhasa, la capitale du Tibet. Ce faisant, elle avait maîtrisé le tummo, cette pratique méditative ancienne, pour générer de la chaleur intérieure. Elle était fascinée, comme elle le disait, par l'immensité de la neige, une blancheur immaculée. Et après des kilomètres de marche dans la neige jusqu'aux genoux, elle a qualifié cela de paradis.
Oui, je crois que c'est tout à fait remarquable, effectivement, surtout pour l'époque, Michel. Alors aujourd'hui, par contre, on a plutôt tendance à rester bien au chaud en hiver.
Vous avez raison, Denis. Et je dirais que nous aurions tout intérêt à modifier notre comportement. C'est clair que depuis Carter, Ritter, David-Neel, les scientifiques commencent à comprendre les énormes bienfaits que le froid peut avoir sur notre corps et notre esprit.
Oh, intéressant. C'est quoi ces bienfaits?
D'abord un peu d'histoire. Notamment sur l'usage de la glace et de la neige, du froid comme technique de guérison. Les manuscrits égyptiens, par exemple, mentionnent le recours à l'eau froide pour réduire l'inflammation. Les moines britanniques utilisaient la glace comme anesthésique, et au 19e siècle, un médecin anglais nommé James Arnott employait de la glace pilée pour soulager les maux de tête et même certaines tumeurs cancéreuses.
Oh! Et qu'en est-il des recherches plus récentes?
Alors là, je vais vous surprendre. C'est une étude réalisée au Japon en 2000 et qui faisait appel à deux groupes de femmes. Un groupe portait de longues jupes couvrant complètement leurs jambes et l'autre des mini-jupes exposant leurs jambes de la cheville à la cuisse. Les participantes ont accepté de porter les mêmes jupes pendant un an et de faire scanner leurs jambes à intervalles réguliers. À la fin de l'hiver, les scans par résonance magnétique ont révélé que les jambes des femmes en jupes longues sont restées inchangées alors que les jambes des femmes en mini-jupes avaient acquis une couche supplémentaire de graisse. Mais attention, ce n'était pas de la graisse ordinaire. Il s'agissait de la graisse brune.
De la graisse brune? C'est quoi la graisse brune? Et surtout, c'est quoi la différence entre la graisse brune et la graisse ordinaire?
La différence se trouve dans la structure, les fonctions de chacune, mais aussi dans l'impact sur la santé. La graisse ordinaire ou graisse blanche, c'est notre réserve d'énergie. Elle emmagasine les calories en trop sous forme de lipides et on les utilise plus tard au besoin. En plus, elle nous protège du froid comme un manteau naturel. La graisse blanche produit des hormones qui influencent notre appétit, notre taux de sucre dans le sang. Le problème, c'est que lorsqu'elle est trop abondante, elle peut entraîner de sérieux risques de santé, comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, maladie du cœur. Et si elle s'accumule autour des organes, le danger est encore plus grand.
Et dites-moi, la graisse brune maintenant?
La graisse brune, c'est un véritable trésor pour notre corps. Contrairement à la graisse blanche, elle ne stocke pas les calories, elle les brûle. Et tout ça pour produire de la chaleur, surtout quand il fait froid. En transformant l'énergie en chaleur, au lieu de la stocker, la graisse brune nous aide à maintenir un poids santé. Mais ce n'est pas tout. Elle joue aussi un rôle important dans la gestion du sucre dans le sang et peut réduire les risques de maladies comme le diabète, l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque. En résumé, la graisse brune, c'est un allié naturel pour le maintien de notre santé. Une vraie merveille pour le corps humain. Un détail intéressant, à l'époque, on pensait que seuls les mammifères qui hibernent et les bébés avaient une couche protectrice de graisse brune pour les aider à réguler leur température. Mais on sait maintenant que les personnes adultes exposées régulièrement au froid peuvent avoir des poches de cette graisse sous leur peau.
Ah, là, vous me faites plaisir, Michel. Moi qui aime beaucoup marcher l'hiver... Mais dites-moi, Peut-on transformer la graisse blanche en graisse brune en marchant au froid?
Effectivement, Denis.
Oh!
Des études ont démontré que la graisse blanche peut, dans certaines conditions, se transformer en graisse brune ou beige, un type hybride. Ce phénomène est stimulé par l'exposition au froid, l'exercice physique et certains composés comme la caféine ou les catécholamines.
Les catécholamines, c'est quoi ça?
Les catécholamines, ce sont des substances produites par notre corps qui agissent à la fois comme neurotransmetteurs et comme hormones. Ça inclut la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline. Et ils jouent un rôle essentiel dans la réponse au stress, la régulation de l'humeur, le contrôle des mouvements, l'utilisation de l'énergie par notre organisme. Donc, bouger régulièrement en s'exposant au froid, un froid modéré, c'est bon pour la santé.
Donc, il y a des bienfaits physiques. Y a-t-il des effets sur le mental?
Absolument, Denis. Non seulement la marche rapide par temps froid garde nos cellules en bonne santé et notre corps en forme, mais elle a aussi un impact très positif sur notre cerveau.
Oh, intriguant ça. Expliquez-nous.
Bien, comme vous êtes souvent dehors l'hiver, Denis, vous avez sûrement constaté que vous réfléchissez mieux par temps froid que par temps chaud.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi? C'est que notre cerveau utilise le glucose pour son bon fonctionnement. Mais quand il fait chaud, une grande partie du glucose est utilisée pour nous refroidir. Le résultat? Il en reste moins pour nos capacités mentales. Ça peut ralentir nos réflexions.
Mmh.
En hiver, c'est l'inverse. Notre esprit reste plus vif.
Ah, je vois. Donc, cela pourrait expliquer pourquoi certains d'entre nous se sentent un peu confus quand il fait très chaud, n'est-ce pas?
Exactement. En revanche, dans les climats froids, beaucoup de gens se sentent plus alertes. Une étude réalisée en 2017 par l'Université de Stanford a démontré que les gens réfléchissaient de manière plus décisive, calme et rationnelle à des températures plus basses.
Fascinant. J'imagine que c'est pas tout.
Non, en effet. Une étude datant de 2012 a montré que le temps chaud réduisait non seulement la capacité à prendre des décisions complexes, mais rendait aussi les gens moins enclins à s'impliquer dans ces décisions.
En somme, le froid stimule notre corps et notre esprit. Donc, c'est une excellente raison de chausser ses bottes cet hiver.
Absolument. Le froid n'est pas seulement bon pour notre esprit, il est aussi bon pour notre santé mentale. Une étude réalisée en Pologne soutient que passer seulement 15 minutes dans une forêt hivernale, sans feuilles sur les arbres, avait des effets émotionnels très positifs. Les participants ont ressenti des bienfaits réparateurs et revitalisants. Cela prouve que la nature, qu'elle soit hivernale ou printanière, a le pouvoir de nous régénérer.
Alors, une promenade hivernale pourrait être tout aussi réparatrice qu'une douce balade au printemps.
Tout à fait. Et il y a un effet intéressant aussi. Le froid peut réduire le stress. Donc, une étude de 2018... à l'Université du Luxembourg, a montré que l'application répétée de froid sur le cou avait activé le système nerveux parasympathique. Et ce système nerveux est responsable de l'apaisement. Cela ralentissait et stabilisait le rythme cardiaque des participants.
Donc, une petite dose de froid pourrait vraiment nous aider à nous détendre.
Oui, oui. Les mois d'hiver nous offrent l'occasion de découvrir les bienfaits de la nature sous un autre visage. Avec leurs branches dénudées, les arbres ressemblent à des sculptures et les formes monochromes des paysages créent une beauté unique. En plus, c'est le moment idéal pour observer les oiseaux qui sont bien plus faciles à repérer. De quoi transformer chaque promenade en une expérience magique et apaisante.
Vous êtes très convaincante, Michel. Et comme toujours, vous avez certainement quelques conseils pratiques pour ceux qui souhaitent profiter des bienfaits du froid et de la marche hivernale.
Bien sûr, Denis. Quelques astuces simples, efficaces pour maximiser votre expérience. Bon, tout d'abord, pas besoin d'un grand froid pour que la graisse brune s'active. Un froid modéré, autour de 16 degrés Celsius, suffit. C'est ce qu'a démontré un physiologiste néerlandais.
Et combien de temps devrions-nous marcher pour obtenir ces bienfaits?
Aussi longtemps que cela vous convient. Mais une autre étude a démontré qu'une exposition de 2 heures à un froid modéré peut convertir la graisse blanche en graisse brune.
Très intéressant, Michel. Mais que dire à ceux qui détestent le froid?
Bonne question. Il a été aussi démontré que plus on s'expose au froid, plus on s'y habitue. C'est le principe de l'habituation. Alors, mon conseil, habillez-vous chaudement et augmentez progressivement la durée de vos promenades.
Alors là, j'imagine qu'il y a aussi un effet sur notre endurance.
Exactement. À des températures plus basses, notre cœur travaille moins fort et nous transpirons moins. ce qui signifie que notre corps fonctionne de manière plus efficace. C'est une excellente façon de renforcer notre endurance tout en profitant de la nature hivernale.
Et pour ceux qui craignent que l'air froid aggrave les allergies ou l'asthme, ainsi de suite.
C'est une autre bonne question, ça. On a fait preuve que l'exercice en hiver, ça peut avoir l'effet inverse. Donc, il réduit l'inflammation allergique dans les voies respiratoires et améliore les symptômes respiratoires chez de nombreux adultes.
Excellent à savoir ça. Alors, avez-vous d'autres conseils pratiques pour bien se préparer?
Toujours les mêmes bonnes pratiques. Porter plusieurs couches de vêtements pour rester bien au chaud. Comme les mains, les pieds, la tête sont les premières zones à se refroidir, n'oubliez pas des gants doublés, des chaussettes épaisses et un bonnet.
Mm-hmm.
Si vous êtes suffisamment au chaud, vous pourriez exposer les avant-bras pour un petit coup de vitamine D. Et le cou pour activer la graisse brune qui se situe souvent sous la peau du cou et des clavicules.
En conclusion, Michel.
Oui, donc marcher dans le froid, c'est un véritable allié pour notre santé physique et mentale. Le froid favorise la graisse brune qui brûle les calories, nous aide à garder un poids santé et réduit ainsi les risques de maladies comme le diabète ou l'hypertension. Marcher dans le froid aide également à transformer la graisse blanche, moins bénéfique, en une graisse beige ou brune, plus active. Côté esprit, le froid améliore la clarté mentale, la prise de décision, tout en offrant des effets émotionnels réparateurs. Une simple promenade hivernale peut réduire le stress, stabiliser le rythme cardiaque et revitaliser l'esprit. Ajoutez à cela la beauté unique des paysages enneigés et le plaisir d'observer la faune hivernale, vous avez toutes les bonnes raisons de profiter de la saison froide. Alors chaussez vos bottes et découvrez à quel point le froid peut être bénéfique pour votre corps et pour votre esprit. Votre corps vous en remerciera.
Formidable. Alors, merci beaucoup, Michel, de nous encourager à marcher dans le froid. Et peut-être que la prochaine fois, vous nous inviterez à marcher dans ce qui est un peu plus chaud.
Oui, j'ai prévu vous parler de marcher dans le sable.
Oh, j'ai hâte.
Oui.
Merci, Michel.
Au plaisir.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier nos invités, Simon April et Michel Cousinat-Baudet. Merci également à notre vaillant technicien en régie, Olivier Pitt. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Joseph Templier. Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place, c'est être à côté. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine. Thank you.